Vous écoutez RTL.
Nightlist. RTL. Éric Jean-Jean.
La première heure.
Salut et bienvenue à bord de la première heure sur RTL. Je suis hyper content de rencontrer pour la première fois quelqu'un avec qui j'ai une passion commune pour Mathias Malzieux,
ah oui.
qui est ton ami, vraiment ton ami très très proche. Et moi, je n'ai pas la prétention d'être aussi proche. Aujourd'hui, je reçois Johan Sfar. Bonjour Johan.
Bonjour.
Je suis un dingue de BD, mais je suis pas sûr de m'y connaître. J'ai appris en travaillant cette émission que tu as fait 150 BD. Tu ne cesses de dessiner.
J'adore dessiner.
Tout le temps.
Comme les gros fumeurs fument tout le temps, moi je dessine tout le temps.
C'est vrai, t'as toujours un truc sur un coin de table,
oui.
c'est vraiment ce délire-là.
Oui.
Et les histoires ?
Bah, les histoires, ça vient avec le dessin, un personnage parle et puis après j'improvise d'une case à l'autre, parfois c'est loupé, parfois non, mais je laisse beaucoup vivre le dessin en fait.
Ouais. C'est pas le scénario qui t'amène un dessin ?
Non, pour moi c'est comme si les personnages étaient vivants et ils existent, il leur arrive quelque chose et j'observe ce qui leur arrive, j'ai l'impression que je suis plus lecteur qu'auteur du livre en fait.
Et alors, j'ai appris aussi quelque chose sur toi, c'est qu'en fait tu t'attardes pas sur le dessin, il est hyper doué en dessin, Johan Sfar, mais tu t'attardes pas sur le dessin parce que pour faire un dessin très très beau ou pour faire un dessin très très précis, tu peux perdre parfois la spontanéité de justement ce que les personnages veulent dire, c'est ça ?
Alors ça dépend. Dans le dernier livre, il y a des dessins quand même très précis parce qu'il y a une jolie fille et j'essaie de détailler. Mais si j'ai fait un dessin trop soigné, le dessin d'après, je vais faire exprès de le faire vite pour que la lecture continue, pour qu'on ne s'endorme pas sur un dessin.
Comment est-ce qu'il est né, ton dessin, avec ses traits extrêmement fins ?
Bah, la rencontre du dessin d'après nature et du dessin d'imagination. Il y a des choses que j'observe et il y a des choses qui me sortent de la tête.
Ouais. Johan Sfar sort une nouvelle BD aux éditions Rue de Rivière. Ça s'appelle « Tu n'as rien à craindre de moi ». Et en fait, je voulais te passer ça pour commencer, c'est nul, mais je vais le faire.
Oui.
C'est la musique du Grand Blond. Pourquoi le Grand Blond ? Parce qu'il est fou amoureux d'une dame, mais absolument sublime, qui s'appelle Mireille d'Arc, qui est l'héroïne de ton roman. Il faut que tu me racontes l'histoire autour de Mireille d'Arc dans cette BD.
Ouais, c'est un album qui s'appelle « Tu n'as rien à craindre de moi ». Ça raconte l'histoire d'amour d'un peintre à Paris et de son modèle.
Ouais.
Et son modèle, comme on ne veut pas dire le vrai nom, il l'appelle Mireille d'Arc.
Ouais.
Et d'abord, il trouve qu'elle ressemble à Mireille d'Arc et elle ne sait pas trop qui c'est Mireille d'Arc.
Et tu as vraiment rencontré Mireille d'Arc ?
Bah oui, parce que quand tu appelles un personnage Mireille d'Arc, il faut demander la permission à la vraie Mireille d'Arc. Donc il y a une mise en abîme dans le récit et à un moment, le héros va voir la vraie Mireille d'Arc qui lui règle tous ses problèmes parce qu'elle, elle a tout compris à la vie. Donc en trois phrases, elle a tout compris.
Alors oui, parce que tu fais une Mireille d'Arc hyper rock'n'roll. Est-ce qu'elle est vraie, cette Mireille d'Arc ?
Non seulement elle est vrai, mais dans la réalité, elle a dit des choses même beaucoup plus crues que ce que j'ai dit dans le livre, mais je pouvais pas tout répéter.
Déjà, c'est hyper drôle parce que ça se passe dans un grand hôtel, l'auteur est assis sur un strapontin, il est toujours bas quand il est avec elle, bref, c'est mignon. Et en fait, il lui parle de cette Mireille d'Arc à lui, qui est en fait une super jolie fille, et elle lui demande si elle a des photos de nu, quoi. Et en fait, elle veut la photographier nue, elle aussi.
Oui, non seulement elle veut la photographier nue, mais le mec, il va mal, il est amoureux, c'est la grosse galère dans sa vie. Et Mireille d'Arc lui dit, attendez, il y a une question importante. Est-ce qu'elle a des poils blonds au-dessus des fesses ? Ça, évidemment, le jour où elle m'a posé cette question, je me suis dit, bon d'accord, je savais que j'étais amoureux de Mireille d'Arc, mais je savais pas en plus que c'était un génie.
Ouais, c'est ça, tu savais pas encore à quel point t'étais amoureux d'elle, ouais. Et du coup, tu disais qu'elle est venue à la présentation.
Elle était là hier
livre.
Soir,
ouais.
on a picolé pour fêter la sortie du livre avec l'éditeur, avec les copains, et Mireille d'Arc est venue avec Annabelle Caroubi, son agent, et elle est restée à boire avec nous, et c'était un rêve qu'elle soit là.
Mais alors, comment elle est née, cette histoire ? L'histoire, donc, c'est un peintre qui doit faire une exposition, il a son modèle, donc cette fameuse Mireille d'Arc, qui tombe amoureux d'elle. Je peux raconter ce qui se passe à la fin ?
Tu peux tout raconter.
Elle le quitte, en fait.
Oui,
elle finit par le quitter.
C'est l'histoire d'un amour, y compris la rupture, et j'essaie de le raconter de manière lumineuse. C'est-à-dire, je me dis que même la rupture, ça fait partie des moments agréables de l'amour, puisqu'on éprouve des choses. Et il y a un troisième personnage dans ce récit, c'est Paris. Paris qui a été beaucoup malmené.
Ouais, il y en a plus que ça. Ouais. Il y a Protéines, il y a le type qui peut pas vivre tout seul. Il y a plein de personnages dans ce récit.
Il y a plein de monde. Mais il y a ce décor de Paris, et j'ai voulu rêver sur une histoire d'amour dans Paris, un peu nouvelle vague, un peu tout ça, pour se soigner de Paris, quoi, pour rendre Paris à ce qu'il a toujours été, une ville où on s'embrasse, une ville où on est amoureux, une ville où des intellos vont au Galeries Lafayette et on peut mélanger, acheter des chaussures et avoir des discussions intello. Moi, je me sens bien là-dedans.
Est-ce que Paris, qui est au centre de cette histoire, c'est le résultat d'une année pourrie qui a été l'année 2015, Johan Sfar ?
Bah, la ville est toujours debout. On pourra faire ce qu'on veut de cette ville, elle sera toujours debout. Et on a, il y a une légèreté dans l'art de vivre à la française qui est respectable. J'ai une amie qui est venue de Hollande récemment, on se donnait la main et elle a voulu m'embrasser dans la rue, mais elle savait pas si c'était permis. Elle m'a dit, à Paris, c'est permis de s'embrasser dans la rue. Je lui ai dit oui et on s'est embrassé. Et je me suis dit, putain, mais cette ville, elle est incroyable quand même. Et c'est vrai que dès qu'on s'embrasse, Paris, il y a des fleurs partout.
Parce que Johann Sfar, j'ai l'impression que tu es au milieu de toute cette année négative, justement, que tu essayes de positiver. Tu as travaillé pour Charlie Hebdo, tu les connaissais tous, c'était tes copains.
J'ai travaillé il y a très longtemps pour Charlie, mais enfin, il y a peu de dessinateurs en France, donc on se connaît tous, ouais. Ça a été très violent. Et puis surtout, moi, mon histoire, c'est que, enfin, comme tout le monde dans ce pays, on a des amis de toutes les communautés, de tous les groupes, et on dirait que maintenant, tout le monde veut nous séparer, tout le monde veut qu'on cesse de s'adresser la parole. Et c'est très difficile de trouver un discours juste sur tout ça, donc je pense que je me plante très souvent, comme tout le monde. Et la fiction m'aide. Le fait de dire, tiens, je vais faire une histoire d'amour qui se passe à Paris, oui. C'est pas une manière de démissionner, c'est une manière d'aller chercher de l'énergie. De dire, tiens, je vais reprendre de l'envie, je vais reprendre de la gourmandise, et après peut-être on replongera dans le quotidien, mais rêver un peu sur la ville où on habite, c'est pas mal, je trouve.
Il n'y a pas qu'une histoire d'amour, il y a ces personnages secondaires qui, moi, m'ont beaucoup intéressé. Le type qui ne peut pas vivre tout seul, par exemple, quand il était avec sa femme, il a envie de baiser tout le monde. Quand il est célibataire, en fait, il n'a plus envie de rien. Ce personnage est fascinant. Comment ça vient? C'est des bouts de vie?
Je pense que je m'identifie à plein de bons hommes, mais ce truc de mec, c'est typique. La seconde où un mec se retrouve célibataire,
il n'a plus envie de rien.
Oui. Il veut retrouver une femme de sa vie, et dès qu'il est en couple, on dirait que tout Paris lui fait des clins d'œil. Mais ça, c'est Dieu qui doit avoir de l'humour, j'en sais rien.
Mais à la fois, c'est tellement vrai. Johann Sfar est avec nous, et je disais qu'on avait une passion commune, Johann et moi. Alors allons-y tout de suite pour la première vraie chanson de cette soirée qu'on passe jusqu'à 2h du matin avec lui sur RTL.
La première heure.
RTL. Je suis le vampire de l'amour. Je dois embrasser tous les jours. Pour rester en vie chaque nuit. Je dois embrasser pour toujours. Oh vampire, vampire de l'amour. Chaque nuit sous ta peau, mon ombre se petit se divise. Nombre de pas en confetti. Tu n'étais pas qu'un
vampire, vampire de l'amour. Vampire, vampire de l'amour. Chaque nuit sous ta peau, mon ombre se petit se divise. Mon ombre, je pars en confetti.
Dionysos, Mathias et toute la bande de Dionysos, Mathias Malzieux qui était il y a je sais pas un mois et demi à ta place derrière ce micro. Mathias qui va super bien, qui est en tournée après ce qu'il a vécu. Comment tu l'as rencontré? Je sais que tu as dessiné plusieurs des pochettes. Tu sais, chez moi, j'ai justement, je crois que c'est Western sous la pluie, le disque d'or, ouais. Avec ton dessin.
On se connaît avec Mathias depuis je crois une quinzaine d'années maintenant. On s'est rencontré quand sa maman venait de décéder et je savais pas comment le rendre heureux. Je lui ai offert son premier ukulélé.
Ah bah dis donc, ça a marché parce qu'il a beaucoup travaillé sur le lit.
Alors il disait c'est comme une guitare sauf que on peut composer dans son lit parce que c'est plus petit. Et on se quitte pas parce qu'il y a beaucoup de correspondance entre nos univers puis on rigole des mêmes choses donc voilà on est très proches.
C'est aussi un truc que j'ai partagé hélas avec lui et que toi aussi, c'est la disparition de la maman.
Ouais.
Qui est parti très tôt chez toi.
Ouais,
ouais. Ouais, il a fallu se faire à l'absence.
Ouais, moi j'ai perdu ma mère avant l'âge de 4 ans. Si je voulais être vache, je dirais c'est grâce à ça que je dessine. Donc en partant, elle m'a fait un cadeau. C'est que ça a créé un manque qui m'a mis au dessin. Donc j'essaie de toujours voir de manière constructive les choses qui nous arrivent parce qu'il nous est arrivé ça.
Ouais. Mathias aussi d'ailleurs, ça lui a permis d'écrire des romans absolument bouleversants.
Mathias, il a un grand talent, c'est qu'il arrive à rendre audibles des histoires très tristes. Par exemple, là, il vient de traverser cette maladie et cette greffe qui est une véritable horreur.
Et qui lui a sauvé la vie.
Oui. Et il raconte ça de manière féerique, c'est-à-dire que le grand public va être capable de s'intéresser à ce que vivent les gens qui ont cette maladie, ou à ce que vivent les soignants, ou à ce que vit le personnel, parce que il met des fantômes, il met des choses surnaturelles, et il met de l'énergie dans des récits dans lesquels personne n'aurait d'énergie, tout le monde se laisserait abattre. Et lui, il y va, j'allais dire presque comme s'il avait un cran d'arrêt dans la main, quoi. Il va se bagarrer.
Tu fais de la musique toi aussi ?
Non, j'ai fait 2-3 concerts avec Mathias il y a une dizaine d'années, parce qu'il était là, mais depuis non, j'ai un ukulélé, puis je chante du Johnny Cash à la maison et c'est tout.
Il y a cette BD, Tu n'as rien à craindre de moi, qui vient de sortir. Est-ce que le fait de venir en promo, c'est un exercice qui te plaît, Joanne Sfar ?
Moi c'est très compliqué, parce que je crois que je suis très bavard derrière un micro, c'est pas pour autant que j'aime ça. Quand tu as le sentiment de te répéter d'une fois sur l'autre, tu te dis mince, je suis pas sincère vis-à-vis de la personne qui est de l'autre côté du micro. Donc je fais de mon mieux pour pas répéter la même chose, je fais de mon mieux pour que ce soit un exercice vivant. Et quand il y a des rencontres, bah comme c'est le cas aujourd'hui, parce que Mathias me parle de toi depuis des années, je me dis cette énergie, on va la retrouver quelque part. Mais il faut pas que ça cesse d'être de l'écriture. Il faut que le moment où tu parles à l'auditeur, bah ce soit encore de l'écriture.
C'est-à-dire il faut inventer des histoires.
Si tu répètes tout le temps les mêmes phrases pendant toutes les interviews de ta promo, tu vas perdre le respect pour toi-même au bout de quelques jours et tu vas te détester. C'est difficile parce qu'il y a parfois 20-30 interviews dans la journée, donc il faut essayer d'être inventif. Honnêtement, des fois, c'est pas possible. Des fois, quand on te pose 30 fois les mêmes questions, tu dis bon, bah, je vais mettre la cassette. Mais d'abord, l'auditeur s'en rend compte. Ensuite, il va te haïr. Il va dire je l'ai entendu dire la même chose.
C'est pas vrai. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, tout le monde n'écoute pas toutes tes interviews.
Ah, ça,
déjà,
c'est
la première chose. Moi, je l'ai vu en préparant, tu sais, des dossiers de presse. Tu sais, tu reçois. Et puis, tu te rends compte, en effet, que nous, journalistes, on pose à un moment tous les mêmes questions. Parce que voilà. Sauf que les gens que tu vas toucher ce soir sont peut-être pas ceux qui ont suivi, à part les purs fans, toutes tes interviews. C'est pas si grave, en tout cas.
Moi, j'essaie d'être vraiment dans la rencontre. J'essaie de me dire qui y a en face, pratiquement d'oublier l'auditeur, mais de parler au journaliste qui est en face de moi. Et quand même, il se passe de jolies choses. Quand même, il y a parfois des rencontres, il y a parfois des moments où quand même, on ne dit pas tout le temps la même chose.
T'as un média favori ?
Bah, j'aime bien la radio parce qu'on voit pas ma tête, comme ça je suis tranquille. J'ai constaté que quand je parlais, j'avançais le maxillaire, là ça me dégoûte, je fais un truc comme ça, là, c'est dégueu. Et non. Tandis que la voix, ça va, la voix, j'arrive à dire.
Mais t'as fait de la radio sur Inter ?
Bien sûr, j'ai fait du dessin à la radio, bah, je chroniquais les tableaux, je disais, et là, superbe travail de l'italien, machin, très, très beau drapé de la Vierge. Et après, j'ai fait le Tour de France. J'ai suivi 7000 km, parce qu'entre les villes-étapes, on roulait aussi, j'ai suivi tout le Tour de France pour France Inter, en sachant que je suis jamais monté sur un vélo et que j'y connais rien du tout.
Donc, tu faisais quoi ?
Ah bah n'importe quoi. C'était 2 minutes de chronique par jour, ultra montée, ultra énervée. Par exemple, on allait sur les bords des routes et puis on croyait qu'on allait se marrer. Puis des fois, on se marrait pas. Il y avait des maisons de retraite. Ils ont mis des gens sur le bord de la route pour passer les vélos. Et je croyais que j'allais me marrer. Le monsieur me dit : « Oui, mon fils, il a failli venir en 85, mais il y a eu une grève. Il est pas venu. Ça fait 30 ans que je l'ai pas vu. » Et là, tu rigoles pas, tu pleures et tu diffuses quand même. Donc j'ai fait le Tour de France.
Et t'as fait un autre truc complètement dingue. C'était l'élection à la mairie de Paris, Kosciusko Morizet.
Tu te souviens de ça ?
Oui, je me souviens. Comment c'est arrivé, cette histoire ?
Le journal Le Monde m'a appelé pour que je fasse les deux QG de campagne dans la même soirée. Et ce qui était très drôle, c'est que tu avais l'impression que la personne de droite, c'était Hidalgo, parce que NKM, elle était lâchée par les Républicains, donc elle n'avait pas de blé. Elle avait une espèce de local pourri avec des néons qui tombaient. Et tandis que Anne Hidalgo, tu avais l'impression d'une série américaine, il y avait la bouffe japonaise, il y avait des ordis partout, c'était War Games. NKM, tu sentais que la droite ne voulait pas d'elle, donc ils lui ont rien laissé. Ils lui ont laissé un garage.
Mais sans déconner.
Ah oui. Même les assistants, tu sens que les jeunes qui ont fait Sciences Po, ils ont tous envie d'être avec Anne Hidalgo parce qu'ils savent que ça va être elle-même. Donc quand ils peuvent pas, ils vont dans l'autre camp.
On te laissait rentrer, t'es arrivé avec ton
carnet. Ils sont très gentils. Ils sont tous très gentils. Ah oui, on entre partout. Je me suis trouvé dans le bureau d'Hidalgo quand elle téléphonait à sa sœur à la seconde où elle a appris qu'elle était le maire.
Et toi, tu dessines ?
Bah oui. Mais oui, parce que quand on te voit avec un carnet, ils s'imaginent pas que tu notes tout ce qu'ils disent. Tu vois, t'as pas d'enregistreur, t'as pas d'appareil photo. Donc, ils mesurent pas ma capacité de nuisance, en fait. ou ils pensent juste que je prends leur tête, mais ils se rendent pas compte que je prends les phrases aussi.
On va écouter Johnny Cash maintenant sur RTL. Ouais.
Hank Williams, Johnny Cash, Jimmy Rogers. Moi, ça, c'est vraiment j'ai grandi avec ça. Les chansons de pauvres blancs américains, j'aime bien.
Mais comment t'es arrivé à la musique, toi ?
Ma maman était chanteuse pop.
Ah oui, donc elle a même fait des disques.
Ma maman a été Mademoiselle H. Tendre, je sais plus à quelle époque. Elle a fait 2 disques, je crois chez Eddie Barclay, mais j'en suis pas certain. Elle a fait des photos avec Claude François, et après elle est décédée quand j'étais petit. Et mon père était pianiste de bar et de bordel en Algérie.
Mais non !
Ensuite, il est devenu avocat, et il a gardé le piano comme instrument récréatif. Et moi, à l'âge de 30 ans, j'ai commencé à apprendre des harmonicas, des ukulélés, des banjos, bon, pour le plaisir. Et c'est vrai que je peux pas dessiner sans musique, je peux pas dessiner sans chanson. Je suis très attaché à la chanson. Oui, Johnny Cash, ça me transporte.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
C'est Johnny Cash sur RTL, alors choisi pour Joan Sarr. D'ailleurs, il y avait le film qui portait le même nom, qui racontait l'histoire d'un type que je ne connaissais pas. Tu disais, j'aime la musique des blancs pauvres.
Ouais. Il y a une imagerie américaine un peu underground, un peu bizarre, un peu de hobo comme ça que j'ai envie de dessiner, que j'aime beaucoup.
Tu dis les hobos, c'est-à-dire les bohémiens, les mecs qui voyageaient, c'est un truc qui te tente, toi ?
Non, mais ça me fait rêver. Enfin, c'est du romantisme, on va dire, c'est presque ado de ma part, mais ou des choses. Quand Johnny Cash va chanter dans les prisons, ça me plaît trop.
Oui, parce que c'est aussi un personnage qui vient de loin quand même, hein. Lui-même perdu. C'est aussi ça qui t'intéresse chez les.
Ce qui m'intéresse, c'est les. C'est les blancs des champs de coton. C'est marrant, ça. On a
toujours l'idée des noirs esclaves.
Mais si on voyait ça, je pense que ça créerait aussi de la fraternité. Il y a des victimes blanches aussi, donc ça devrait amener à moins de haine ou moins de trucs. Je ne sais pas si je le raconte correctement, oui. Mais l'enfance de ce Johnny Cash qui aime les chansons qu'on fait à l'église, dont les parents travaillent dans le coton, qui se fait battre par son père, qui machin. On est tellement dans les clichés de ce qu'on nous a dit sur les Noirs américains et qui est juste, et de voir que des Blancs subissent la même chose. Moi, je sais pas, j'arrive pas bien à l'expliquer, mais il y a un lieu où ça devrait créer de la fraternité.
Oui, je comprends. Mais ça, peut-être que la fraternité, d'ailleurs, c'est parce que je voulais te parler des thématiques que j'ai trouvées dans ton œuvre et dans ce que j'ai pu en trouver. La fraternité, finalement, c'est peut-être ce qui est en filigrane.
Oui, c'est-à-dire j'essaie de quitter l'idée de peuple ou de religion et de rester sur les êtres humains. Et tiens, tu mets deux mecs en face ou un mec et une nana en face, il se passe un truc.
Ouais, et là, la religion est très présente.
Oui, mais comme fait culturel ou comme enrichissement. Je voudrais pas qu'on résume les gens à ça. Moi, c'est ça qui m'ennuie, c'est quand on essaye de résumer les gens à leur religion ou à leur nationalité. Ce sont des éléments parmi d'autres. Et aujourd'hui, on est tellement tendu qu'on dirait que ça prend toute la place. Et ça me préoccupe.
N'empêche qu'elle est bouleversante, la religion, notamment cette scène dans le livre. Et quand on connaît un peu ton histoire, on se doute qu'il y a aussi un peu de toi à l'intérieur de tout ça. Et puis aussi, il y est question beaucoup de juifs.
Moi, j'essaye de faire du judaïsme un fait culturel, de justement de pas résumer le judaïsme à la religion et dire.
Le judaïsme est un universalisme, c'est toi qui l'écris.
Bien sûr, de la même manière que la France est un universalisme. Il y a des pensées universalistes. Ce qui est excitant dans le judaïsme, c'est ça, c'est l'idée d'avoir une vision particulière de l'être humain, d'être un peu à la même hauteur chacun. Quand Spinoza amène ça, c'est l'idée qu'il n'y aura plus droit, c'est l'idée qu'on va tous être à la même hauteur, donc ce judaïsme-là culturel m'intéresse.
Ouais, et puis surtout les croyances auxquelles tu casses un peu la gueule, il y a une phrase de Protéine. Tu imagines Mireille d'Arc redécouvrir la peur du péché. Mireille d'Arc, je veux absolument redevenir complètement conne, comme les croyants.
Non, c'est parce que je raconte ça. Tu sais, quand tu es homosexuel, très tôt, tu te rends compte qu'il va falloir réfléchir parce que tu n'es pas dans la norme, il y a une vie à construire. Bon. Quand tu es hétéro, on te raconte très petit que ça va bien se passer. Il va y avoir le mariage, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Quand tu te rends compte qu'on t'a survendu le couple, que ça ne marche pas, que le mariage, c'est. Et qu'il y a, tu ne sais plus dans quelle religion te jeter pour qu'on te dise attends, on va te trouver des règles, on va s'occuper de tout. Et je trouve qu'il y a une certaine noblesse à essayer de rester debout sans cadre. Dis attends, on va se démerder.
Et
on va inventer.
Mais parce que c'est vachement rassurant d'avoir des cadres. Et je comprends. Et c'est aussi. C'est une interview de toi que je lisais, je crois, dans Match ou quelque chose comme ça, où justement tu disais que tu avais rencontré des mômes et que tu discutais avec des jeunes de banlieue, etc. Et que c'était rassurant pour eux d'avoir un cadre, finalement, même s'il était aussi pourri que.
Surtout, il y a une jeunesse qui a l'impression que personne l'aime, et parfois ils ont raison, parce que parfois, ouais. Si tu ouvres les infos et tout, ils ont l'impression de s'en prendre plein la gueule toutes les deux minutes. Donc après, il ne faut pas leur en vouloir d'avoir des réflexes de repli ou de machin, et des pièges nous sont tendus là-dessus de tous les côtés, tu vois, d'essayer de, là encore, de classer les jeunes par religion, de leur trouver des signes distinctifs. Moi, je trouve ça très. Et c'est difficile, on pèse chaque mot en ce moment parce que quel que soit le mot qu'on dit, les gens vont nous dire ou qu'on est trop naïf, ou alors qu'on est contre la religion, ou qu'on est ceci, qu'on est cela. Même moi qui suis très bavard, parfois je sais plus quoi dire.
Est-ce que ça a une influence sur la manière dont tu travailles? Et je pense en plus, un peu plus loin, en pensant aux attentats, c'est-à-dire à des dessinateurs qui ont été assassinés.
Je sais pas. Moi, je m'envole quand même beaucoup dans la fiction, beaucoup dans des légendes. Après, au jour le jour, c'est vrai que je fais des dessins que je mets sur Instagram. Quand il se passe rien, je fais des dessins mignons sur mon quotidien. Quand il se passe des choses graves, je laisse sortir sans filtre, même si des fois je suis niais, même si tout ça.
J'ai vu ce que tu as fait après le 13 novembre. Hein. Vous étiez très présent, 2-3 dessinateurs et toi, sur Instagram. C'était bouleversant.
C'est-à-dire qu'on est plein. Moi, j'ai la chance que parfois les gens retweetent mes dessins, ce qui les rend un petit peu omniprésents. Mais à la base, c'est des dessins que je mets juste sur mon compte Instagram perso. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir les dessins qui sont retweetés. Par exemple, après les attentats qu'il y a eu à Bruxelles, j'ai fait quelques dessins très méchants, très vaches, et j'en ai fait un tout mignon, un peu cliché, où j'ai fait le mannequin pisse qui pleure et qui dit on n'a pas le droit de pisser tranquille. C'est celui-là que tout le monde a repris.
Ouais, vu.
Donc du coup, les gens ont dit oui, Johan Sfar, il est niais. Mais à côté de ça, j'ai fait plein de dessins très très vaches qui n'ont pas été repris. Après, il faut faire attention avec tout ça parce que il y a un moment où la recrudescence des attentats fait que plus rien ne marche pour apaiser les gens.
Le dessin, c'est une manière de parler aux gens pour toi. C'est-à-dire, est-ce que tu communiques mieux par le dessin que par la parole ou les actes, ou y compris dans ta sphère privée, je veux dire.
Oui, le dessin, c'est une attitude irresponsable. C'est-à-dire, tu ne te dis pas que tu es en train de t'exprimer ou de transmettre un message. Tu laisses sortir des ondes ou des voix ou des personnages et tu es tout surpris par ce qu'ils te disent. C'est comme si ils me parlaient à moi, les personnages. Et après, les gens peuvent assister à ce qui se passe, mais je suis dans le siège du lecteur quand je fais des dessins. Et j'aime bien mettre en scène des personnages qui pensent des choses opposées sans savoir comment va se terminer leur discussion.
Tu commences un dessin et tu ne sais pas où tu vas.
Absolument.
C'est génial.
Absolument. Mais tu vois, sur les questions religieuses, quand il y a eu toutes ces questions liées au voile, dans mes carnets autobiographiques, d'un côté, j'ai dit mon sentiment. De l'autre côté, j'ai donné la parole à des jeunes femmes voilées que je fréquentais et je les ai laissées parler. Parce qu'au moment où tout le monde essaie de rendre politique ce voile et de l'instrumentaliser, moi, j'ai essayé de me rapprocher d'individus. Qui parlait et qui le portait, etc. Non que je sois favorable au signe distinctif religieux, mais je trouve que c'est intéressant de voir les chemins de chacun pour essayer de se comprendre davantage.
RTL Nightlist,
la première heure.
Éric Jean-Jean.
Allons enfants de la patrie. Sans de leur vertu.
Gainsbourg, aux armes, etc. L'album enregistré en Jamaïque sur RTL avec cette fameuse reprise de la Marseillaise et l'histoire qu'on connaît. Hein. Johan Sfar est avec nous. Alors, tu as commencé par lui consacrer quoi ? Deux livres, Gainsbourg ?
Ça a été fait en même temps. C'était les dessins et les bandes dessinées de préparation. Moi, je ne savais pas comment on faisait un film. Un scénario de film, ça doit faire 100 pages. Moi, j'avais fait un scénario de 350 pages de bandes dessinées.
Donc après, t'as pris une bio ?
Pas seulement une bio, il y avait la bio de Gilles Verland, il y avait deux, trois
autres. Qui est la bio de référence.
Voilà, mais j'ai eu Gilles Verland en personne aussi. Voilà. Et en plus de ça, toutes les interviews de Gainsbourg, tous les endroits où il parlait, et j'ai fabriqué le scénario uniquement à partir de phrases de Gainsbourg. Même si parfois c'était des mensonges.
Sans déconner.
Ah oui, même si parfois c'était des mensonges parce qu'il mentait beaucoup. Mais j'ai gardé que des histoires qui venaient de lui. Donc c'est pas mon délire, c'est le délire de Gainsbourg.
Mais c'est un travail de titan.
Ouais, mais c'était drôle. Je l'aime au-delà de tout, donc j'en ai jamais marre de Gainsbourg.
Comment il est arrivé dans ta vie, Gainsbourg, d'abord, juste pour comprendre ?
Bah, j'imagine, comme toi, quand j'étais petit, c'était le mec le plus marrant à la télévision.
Bah, c'est avec ça. C'est-à-dire que c'était Gainsbourg, c'était Whitney Houston.
Ouais. Et puis, puisqu'on est de la même génération, à un moment, ils ont sorti le coffret avec l'intégrale de son œuvre. Et là, je me suis aperçu de l'ampleur du bonhomme. Parce qu'on le connaissait comme un agitateur. Et après, de découvrir toute son œuvre, qui a commencé finalement avec des chanteurs rive gauche et qui se termine avec l'invention du rap, parce que c'est lui qui amène le rap en France, je trouve ça extraordinaire.
Et donc, tu n'avais jamais fait de cinéma, mais comment ça se danse après ?
Bah, je ne sais pas comment on fait un film, moi, mais je ne sais pas comment on fait une BD non plus. Ils sont venus me chercher en me proposant de faire un film. Bon, j'ai dit, je veux travailler sur Gainsbourg. Ils m'ont dit, ça ne se fera jamais parce que la famille dira jamais oui. J'ai eu de la chance, la famille m'a dit oui, donc on ne sait pas comment. Et j'ai voulu mettre des marionnettes partout. Alors là, tout le monde m'a dit non, marionnettes non. Alors on a trouvé des financiers ailleurs. Il y a eu le groupe Studio 37 et il y a eu Universal, donc un groupe anglo-saxon qui nous a aidés. Et après, on était partis en financement. Et puis, j'ai pas eu honte de dire à mes techniciens, j'ai jamais fait de film, expliquez-moi. Et chacun m'a expliqué, pas juste la caméra, mais les coiffures, les costumes, le machin. La chance que j'ai, c'est que je suis dessinateur, donc je fais des petits croquis, comme si je refaisais ta salle de bain. Tu dis, ok, le robinet, vous le voulez où ? J'ai fait ça pour le film. J'ai fait un casting de techniciens en or, que des gens avec qui j'avais envie de passer toute ma vie.
Et puis l'idée de génie d'Éric Elmoussino.
Ouais, il est fort, lui. Hein.
Comment tu peux imaginer que ce mec peut, à ce point, ressembler à Gainsbourg ?
Parce qu'il est fort, parce qu'il l'a inventé, parce que dans la vie, il ne lui ressemble pas tant que ça. Lui, il n'a pas voulu voir des films et des machins de Gainsbourg. Il a fait sur son souvenir et il a fait sur son jeu de théâtre. Donc, il a fait un Gainsbourg de mémoire, d'une certaine façon. Première rencontre, il s'assied, Elmoussino, il dit « Je te préviens, j'en ai rien à foutre de Gainsbourg. » Je dis « Ah, ça, c'est bon.
» C'est vrai ?
Au moins, il n'est pas... Parce que ça, je ne peux pas dire les noms, mais on a testé beaucoup de comédiens français très connus qui avaient Gainsbourg sur les épaules. Ça les écrasait, ils faisaient une imitation. Des fois, ça faisait limite Patrick Sébastien ou je ne sais pas quoi. Ah, total respect, Patrick Sébastien, c'est pas ce que je veux dire. Mais enfin, c'était de l'imitation. Et Elmoussino, il arrive en disant « Je m'en fous ». Et son « Je m'en fous », ça a donné un chien au truc. Et il dit « Non, mais on va... » Et comme le texte de mon scénario, c'était du texte de Gainsbourg, c'est des phrases que Gainsbourg a vraiment dites, de te mettre les mots de Gainsbourg dans la bouche, tu le fais intervenir.
Et après, il y a eu le Chat du Rabbin, mais c'était un film d'animation.
Il y a eu le Chat du Rabbin en animation. J'ai sorti cet été un thriller qui s'appelle La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil, qui est une espèce de délire musical avec une nana, une bagnole, très très peu de budget, qui n'a pas dérangé grand monde cet été quand il est sorti. Et là, je pars sur d'autres projets dont j'ai pas le droit de parler, mais enfin, il n'est pas exclu qu'il y ait des vampires, des monstres et des trucs qui envoient un peu du bois.
Très bien, affaire à suivre. Dans ce film, si ma mémoire est bonne, mais je crois qu'elle n'est pas mauvaise, tu apparais en Georges Brassens. Du coup, j'ai sorti trois Brassens. Les Passantes, parce que je crois que c'est ma préférée. Bon. Trompette de la Renommée, parce que ça me fait penser à toi. Et puis Le Roi. Tu veux laquelle ?
Eh bien, celle que vous voulez, c'est votre choix, monsieur Jean-Jean.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets, à celle qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. À celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui presque s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la compagne de voyage dont les yeux charmants paysages font paraître court le chemin qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main. À celles qui sont déjà prises et qui vivent des heures grises près d'un être trop différent, vous en inutile folie, laissez voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus, aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors, au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir, on pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir.
Cette chanson me bouleverse, les passantes, Brassens.
Ça me touche beaucoup, Jean-Jean, que vous ayez choisi cette chanson, parce que c'est la préférée de mon ami Lino Ventura.
C'est pas vrai.
Qui m'en a parlé un jour au Grand Échiquier, et j'ai dû lui avouer que je n'étais pas l'auteur des textes.
T'as raison, il n'empêche que les passantes, voilà, Brassens. Pourquoi Brassens est si important dans ta vie, Joanne Sarr?
C'était le chanteur préféré de mon papa. Donc j'ai grandi avec les chansons de Brassens. Il y a un guide de vie chez lui que j'aime bien, il y a une manière... un peu de lettres classiques comme ça et de blagues, de vacheries. J'aime bien sa philosophie. Je crois que c'est un vrai. Je ne sais pas si c'est un poète ou un philosophe. Brassens, c'est peut-être les deux. Moi, il m'apaise beaucoup dans l'existence.
Le petit Joanne Sarr, il a grandi à Nice, dans le sud de la France. La famille est originaire d'Algérie.
Ma famille paternelle vient d'Algérie, ma famille maternelle vient d'Ukraine.
D'accord, donc Séfarade et Ashkenaz de chaque côté. Donc la maman, c'est le Nord. Voilà. Le papa, c'est le sud. Ouais. Ta maman est partie très vite, donc elle avait 26 ans. Toi, t'en avais 4. Voilà. C'est à ce moment-là que tu commences à dessiner.
Ouais, puis si tu vois un peu la série Mad Men, mon père, c'est Don Draper dans Mad Men. C'est-à-dire
c'est la classe.
Il a commencé avocat des putes, il a fini avocat des banques. C'était,
Et ton grand-père aussi est dingue, on y reviendra.
Mon grand-père était ahurissant. Mon père était l'avocat en vue à Nice, si tu veux. Toujours les costumes, il conduisait une Alfa Romeo, machin et tout, la classe intersidérale. Et c'est difficile de grandir à l'ombre d'un mâle dominant comme ça. Donc, j'ai eu de la chance qu'il dessine pas, donc je me suis exprimé dans le domaine que mon père maîtrisait pas du tout.
Ouais. Tu dis, ouais, il était l'avocat des puissants, il finit l'avocat des putes, il a aussi lutté contre les néo-nazis. Enfin, c'est les mecs qui ont...
Mon père était bien réveillé, quoi. Il était très proche du FLN quand il était en Algérie. Il est parti d'Algérie avant les pieds noirs parce qu'il était à fond pour l'indépendance algérienne. Il a commencé sa carrière bien à gauche et il a terminé bien à droite. Je vais essayer de pas faire pareil. Mon père a été adjoint de Jacques Médecin et il a démissionné quand Jean-Marie Le Pen a été reçu à la mairie de Nice.
Droit dans ses bottes, quand même.
Ouais. Mon père était bien énervé et il était très droit dans tout. Ce qui est pas mon cas, moi, je suis un truand pas possible. Je mens tout le temps.
Alors, ton grand-père, Toubib, grand résistant.
Ouais. Il a quitté la Pologne pour devenir médecin en France. Et le jour où il part en France, son rabbin le convoque. Il lui dit, tu sais Arthur, tous les trucs qu'on fait là en Pologne, mettre une kippa et bouffer kasher, c'est bien parce qu'on est dans un pays d'arriérés, mais là tu vas chez des civilisés, tu continues pas de faire ça en France. Et alors là, il n'en revenait pas que son rabbin lui ait dit ça.
C'est génial.
Et il a, évidemment, comme toute sa famille est morte dans ce qu'on a appelé la Shoah par balle, il a abdiqué toute religion. Et c'est grâce à mon grand-père que je suis anticlérical aujourd'hui. C'est-à-dire que dès que je vois un prêtre, je sors une vanne. Pas méchante, mais une vanne quand même, parce que lui était absolument pas croyant.
Et les femmes dans tout ça ?
J'ai été très heureux, j'ai rencontré la maman de mes enfants quand on était au lycée, au collège. On a vécu 30 ans ensemble et on s'est séparés il y a 2 ans. Et comment dire, depuis 2 ans, j'explore le monde, je suis très heureux aussi.
Est-ce que t'es devenu comme le personnage, le copain du héros qui n'arrive pas à être seul ?
Non, au contraire, moi j'adore être seul. J'adore être avec des filles et j'adore être seul. Donc, je me suis aperçu que j'avais aucun problème avec l'amour. J'ai peut-être des petites difficultés avec le couple. Donc, l'amour, ça me va. Le couple, là, aujourd'hui, j'aurais un peu des difficultés.
Et donc, quand toi, t'as été élevé, il n'y avait pas de femmes. C'était une société d'hommes.
Ah non, c'est une famille avec beaucoup de cousines, beaucoup de tantes, avec une sœur. Non, au contraire, j'ai grandi parmi les femmes. Et à Nice, il me semble que les nanas se défendent beaucoup mieux qu'à Paris, contre toutes sortes de choses. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'égalité des sexes, presque par la brutalité. À Nice. C'est-à-dire qu'on est à partir du mois de mars, on est tous torse nu à la plage et les filles se laissent beaucoup moins emmerder qu'à Paris. Tu te permettrais pas à Nice d'aborder une nana comme ça arrive dans certains quartiers à Paris parce que d'abord les mecs qui sont autour vont t'en mettre une, mais ensuite parce que la nana va t'en mettre deux. Donc il y a du répondant. Il y a un microclimat dans le caractère des niçoises qui me plaît infiniment.
Il est présent le corps aussi dans ton travail, notamment le corps de la femme dont j'imagine que comme moi tu en es très amoureux.
Ouais, enfin, ça pourrait être des hommes aussi, mais j'aime le nu. J'aime quand des personnages se regardent, se dessinent, s'apprécient. Être nu, ça veut dire qu'on se sent en sécurité. Ça veut dire que, tiens, je ne vais pas subir d'agression, alors donc je peux être nu devant ce mec-là, puisqu'il ne va pas m'agresser. Et le crayon, c'est aussi une manière de ne pas agresser une personne. Je dis des femmes, mais je peux aussi dessiner des hommes nus. Le désir qu'on éprouve pour un modèle, il n'est pas tellement latéralisé du côté homme-femme. C'est qu'à un moment, on plonge dans le fait que cet être humain est vachement beau.
Tu fais des belles études de philo. T'as toujours dessiné, mais comment est-ce que t'arrives à la BD ? Comment est-ce que tu débarques niçois de Paris ?
J'ai fait des bandes dessinées depuis toujours. À partir de l'âge de 14 ans, j'envoyais des projets tous les mois aux éditeurs et ils répondaient pas, ou parfois ils répondaient non. Et à 24 ans, 3 éditeurs m'ont dit oui le même mois pour 3 projets différents. Et à partir de là, j'ai commencé à publier chez plein d'éditeurs à la fois, certains underground et d'autres au contraire très grand public. Donc moi, je ne suis pas un mec underground qui est venu au grand public. Je suis quelqu'un qui a toujours travaillé pour les deux types de maisons d'édition. Et j'ai fait les Beaux-Arts à Paris après avoir fait la philo.
T'arrives avec ton scénario et tu vas dans, dans une maison d'édition.
Enfin, d'abord, j'ai eu des métiers foireux. Hein. J'ai dû faire des dessins porno pour un guide de massage sexuel.
Génial.
Je devais dessiner en particulier des doigts dans le cul pour expliquer comment solliciter la prostate de son partenaire, si c'est un homme ou si c'est une femme. Donc, je faisais des doigts dans le cul en coupe. Ensuite, j'ai dû être prof d'anatomie dans une école pour kiné. Mais comme je connaissais pas les noms des os, ils m'ont foutu dehors parce que je disais, ah, il y a ce truc-là qui s'insère dans ce match. Bon, la porte est là. J'ai illustré un livre, j'espère qu'il a disparu, qui s'appelle 606 trucs pour séduire les garçons. Bon, et après, j'ai eu la chance de pouvoir publier de vraies bandes dessinées parce que je me suis foutu dans un atelier où il y avait plein d'autres dessinateurs et comme j'étais le dernier arrivé, tous les boulots dont ils voulaient pas, ils me les refilaient.
Mais on gagne sa vie quand on dessine.
Au début, non. Aujourd'hui, moi, très très bien. Quand j'ai commencé, dans toute ma première année d'activité, j'ai gagné 10 000 euros dans l'année. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, un auteur de bande dessinée, il n'a pas à tous les coups la sécurité sociale, il n'a pas de congé, il va peut-être bientôt avoir une retraite, mais c'est pas gagné.
Est-ce que t'es un intermittent du spectacle ?
Certainement pas.
Ah putain,
on a
c'est
aucun
ça,
de ces avantages-là. C'est vraiment par la passion qu'ils tiennent là-dessus, les gens.
Thank you.
Volonta à la Dolce Vita sur RTL, la première heure de Johan Sfar. Tout à l'heure, à partir de 1h, c'est la programmation de Johan qu'on écoutera. Pour l'instant, on bavarde avec toi. Ça te parle ?
Ah oui. Moi, si tu me demandes, moi, comme je connais rien en musique classique, quand on me demande mes grands musiciens préférés, je vais dire Sergio Leone et Nino Rota. Je vais dire Ennio Morricone et Nino Rota.
C'est une forme de musique classique, je veux dire la musique de film.
Ça rend fou. Ouais. Et la Dolce Vita, c'est marrant parce que ça devait être un documentaire à l'origine, je crois. C'était un documentaire sur un photographe et c'est devenu ce film.
Ah, je savais pas.
Ah oui, il devait. Et c'est lui qui a inventé le mot paparazzi. Ça a été inventé à l'occasion de ce film. On disait pas ce mot-là avant.
Je voudrais qu'on parle maintenant, puisqu'on commence à s'enfoncer dans la nuit, de ton rapport à la nuit, Johan Sfar. Est-ce que d'abord la nuit c'est la création pour toi ?
Ouais, surtout quand je suis en retard.
Non, mais ça c'est le fruit de la procrastination. D'ailleurs, est-ce que tu procrastines ou
non,
pas du tout ?
Non, j'ai pas le temps, j'ai trop de boulot. Mais par contre, je passe vraiment 8 à 10 heures par jour à dessiner et parfois je termine à 4-5 heures du matin parce que je suis en retard.
Et t'es un peu autiste quand tu dessines ?
Je mets de la musique. Je dessine en musique.
Ah oui, tu m'as pas dit ce que t'écoutais.
J'écoute de tout, mais quand j'ai vraiment du mal à m'y mettre, il y en a un qui m'aide, c'est Frank Zappa. Parce que, je sais pas pourquoi, les mélodies de Zappa sont tellement compliquées qu'elles me vrillent le cerveau et immédiatement je me mets à dessiner quand il arrive. Je peux pas t'expliquer pourquoi. Il y a un truc, David Bowie aussi peut-être, c'est un peu de la science-fiction, en même temps c'est mon Star Wars, si tu veux.
Ça te fait inventer des images ?
Sans doute, sans doute. Tu sais, ce sont des musiques, j'ai l'impression, Zappa en particulier, qu'on n'épuise jamais. Je ne suis pas assez savant en musique pour expliquer pourquoi, mais elles sont plus compliquées que les autres chansons ou que les autres musiques et j'ai toujours l'impression de les explorer alors que je les ai écoutées des milliards de fois.
Je comprends, je suis en train de caler Zappa.
En plus, il y a plein de disques de Zappa.
Dancing Fool ou Joyce Garage ?
Tout
est bien. Et on va se tenter un petit coup de Dancing Fool juste pour partager avec les éditeurs d'RTL qui sont avec nous là. Et ça t'inspire pour dessiner ?
Oui. Il est fou, il est drôle, il est provocant, il n'a pas peur d'être débile quand il faut. Et puis il y a des dizaines de disques, c'est ultra prolifique, ultra. On a l'impression quand il arrive sur scène, on dirait qu'il transforme le public en pâte à modeler et il les malaxe.
Ouais.
Quand j'entends ça, je me mets à dessiner.
C'est vrai ?
Ouais.
Et moi, ça me fascine en fait le talent du dessin. Je suis un peu sans voix, mais donc t'écoutes ce truc et soudain t'as un personnage qui vient. Ouais. Et quand tu te mets à dessiner, tu sais pas ce qui va arriver ou quand même là.
Non, je dessine une case et je me dis après, et après, et après, et après. Et le personnage, quand il est gentil, il me prend la plume et il se dessine tout seul. Et il me fait la case d'après. Et il répond.
Ton héros avec les yeux bleus, un peu rouquin, mal rasé de cette dernière BD, c'est lui qui t'a pris la main ?
Ouais, ou c'est la meuf aussi, c'est la nana.
Elle est très jolie, ouais, hein, Mireille Darc.
Moi, ce qui me fait marrer, c'est quand ils disent une chose et que dans l'image, tu vois autre chose. Par exemple, il y a une image où elle lui explique, oui, tu comprends, nous les femmes, quand on s'habille le matin, on essaye à la fois de montrer, de dévoiler, et lui, il est derrière, il est tout nu, il bande, et il dit, chez les hommes, c'est différent.
Et elle, un truc génial aussi, quand elle lui dit, quand on voit que le mec a mis plus de 5 minutes à s'habiller, c'est rédhibitoire.
Ouais, elle lui dit, dès qu'un mec a passé plus de 5 minutes dans la salle de bain, il perd tout intérêt, et en même temps, c'est elle qui le relook des pieds à la tête, elle l'habille complètement en pingouin, et quand elle l'habille, elle lui dit, maintenant, tu es vraiment toi-même.
Oui, c'est ça. Et alors, il y a un autre personnage qui existe chez toi tout le temps, c'est le chat.
Ouais. C'est trop bien ces bestioles. C'est trop bien parce que ça, c'est là quand tu dessines, mais ça te dérange pas trop. Enfin, les miens, ils foutent le dawa quand même. Les miens, ils piquent les plumes en métal, et ils vont les cacher dans leur corbeille de bouffe. Donc, au milieu des croquettes pour chat, je découvre des plumes, et parfois entre les lattes de parquet. Donc, c'est vraiment des salauds parce que quand je marche pieds nus, je me plante des plumes dans le pied.
Mais quel salaud ces chats!
Oui, mais à part ça, ils sont mignons. Après, il y a le drame quand une fille vient à la maison. Oh, ils sont mignons, ils peuvent dormir avec nous. Non, je t'assure, ils peuvent pas dormir avec nous. Ah, s'il te plaît. Bon, là, tout ouvre, t'as les trois chats dans la chambre. Et là, à 3h du matin, c'est toi qui te lèves pour foutre dehors, les chats, ou la fille, ou toi. Mais enfin, il y a quelqu'un qui doit sortir de la chambre à 3h du matin.
C'est ça. C'est-à-dire que dans un moment extrêmement intime, voilà. Voir passer la tête du chat comme ça à quelques centimètres de toi.
Voilà, et toi, tu le mets près de la tête, mais s'il est près des couilles, c'est encore plus douloureux. Et rassure-toi, si la fille revient, elle ne redemande plus les chats dans la chambre. C'est une fois.
Mais d'ailleurs, c'est un peu évoqué dans cette BD. L'histoire de cette vieille chatte qui arrive.
Oui, j'ai aussi une vieille chatte. Ce qui m'a fait marrer, c'est... Oh, vous avez mis un sous-entendu grivois, monsieur Jean-Jean, pas moi. Ce qui m'a fait marrer, c'est que dans le chat du rabbin, il y a un chat intelligent et qui parle. Et là, je me suis dit que j'allais mettre une vieille chatte complètement con et qui parle pas.
Pas sympa.
Et qui se laisse caresser, puis qui griffe au hasard. Elle griffe de manière random n'importe quand. Donc, il n'y a pas moyen de créer une relation avec elle.
Et alors, pour en revenir à la nuit, parce qu'on a commencé sur ça, on a digressé par Zappa. La nuit, bon, si tu travailles, tu travailles, mais sinon c'est la fête, ou c'est une amie, c'est un truc un peu flippant.
C'est-à-dire, je suis très influençable. Donc si tu m'entraînes dans n'importe quoi, je vais y aller. Et si tu me laisses tranquille, je ne vais pas y aller. Mais j'ai une manière D'abord, je cloisonne beaucoup mes amis, donc je fréquente des gens très différents dans des mondes différents, et j'ai tendance à beaucoup me laisser entraîner. Donc il y a des nuits qui se terminent très très tard.
Mais
oui.
T'es comme un chat, parce que les chats, ils font que ce qu'ils veulent au final. Tu vois ce que je veux dire,
le
mec un peu indépendant.
Non, j'ai beaucoup tendance à suivre les groupes. Une personne, deux personnes, des groupes de filles, des groupes de copains, dit tiens où on va, je les laisse dire, je suis, et des fois je fais le tour du cadran à être dehors, n'importe quoi, parce que mon métier, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux. Si je passe deux nuits dehors, après je vais travailler pendant trois jours sans m'interrompre. Mais
est-ce que ça te nourrit pas aussi un peu?
Moi,
ou est-ce que c'est légende ça?
Moi j'adore, parce que Paris c'est une ville formidable. On peut pas passer deux heures dehors dans Paris sans repartir avec des anecdotes, avec des rencontres, avec des personnes. Même, c'est un cliché, mais moi je m'entends très bien, bon, peut-être parce qu'ils me voient trop, mais avec les barmen. C'est pas bon signe, mais je sais que quand les barmen me voient arriver ou quand je les revois, il y a des anecdotes parfois sur d'autres clients, parfois sur des choses. Je suis grand amateur de bar d'hôtel. Enfin, je sais pas, j'aime bien tout ça.
Tel genre à justement laisser un dessin au barman pour lui faire plaisir, et lui dire au revoir.
Oui, au barman, aux filles, même aux mecs. Il m'est arrivé un truc, une fois c'est une boîte et il y avait une espèce de type qui avait vraiment l'air patibulaire de l'autre côté, genre un tueur, et je commence à le dessiner, et à un moment je le vois pas, et là je sens qu'on me prend la main, et c'était le mec qui était là, et il me dit mon nez, il est pas comme ça.
T'as eu les jetons?
Ah oui, moi j'ai eu une grosse trouillarde, mais après ça allait.
Et au fait, écoute ça, j'ai lu que t'adorais Rocky, c'est
à
vrai
fond, à fond.
Attends, écoute, à fond. Écoute, mieux écoute, que ça, écoute, c'est vrai, tu vas me raconter pourquoi. On laisse tourner.
Grip on the dreams of the past. You must
Alors ça, c'est Survivor sur RTL, Eye of the Tiger. J'ai sorti ça, mais dernier moment, parce que j'ai lu que t'adorais Rocky Raconte, Johan Sfar.
Je suis un fan absolu de Rocky. Quand j'ai vu Eye of the Tiger, je courais derrière la bagnole du père de mon copain pour me calmer après le film. Et la BO du dernier, la BO de Creed est extraordinaire. Il y a des rappeurs...
Je l'ai pas encore vu.
Ah, mais il faut que tu écoutes la BO. Le film est super, mais la BO encore mieux. Il y a des rappeurs de Philadelphie qui ont repris des thèmes de Rocky, mais qui ont joué avec, qui ont inventé. Il y a une histoire d'amour superbe dans ce film. Moi, pour moi, Rocky, c'est le mélo moderne, presque à la Dickens ou presque à la je sais pas quoi. Mais je pense que j'aime Rocky même plus que Star Wars, plus que ces trucs-là. C'est pour moi, le truc d'enfance, c'est Rocky. Le truc qui me fait rêver, qui me donne envie. Ça a l'air bête, mais quand c'est difficile de finir un travail, par exemple un dessin, un livre, un truc, je pense à Stallone qui s'entraîne. Enfin, je suis aussi bête que ça. J'ai ces émotions de gosse.
Tu sais, les marches là de...
Ah ouais? Ouais, quand il monte l'escalier là, tout ça, et ou quand il bouffe des œufs crus là, moi c'est comme mon coach, il m'a donné des barres de régime, mais il a fait la gueule parce que j'ai bouffé les 10 barres en une journée. Il m'a dit non, c'est pas comme ça, c'est une par jour. Ah ok. De toute façon, quoi que je fasse, je me convainc que ma vie c'est Eye of the Tiger. Mais vaut mieux pas filmer chez moi quand je fais du vélo elliptique, parce que c'est assez ridicule.
Très bien. Donc voilà. Donc c'est bon. J'enlève cette image de ma tête. Oui, mais Rocky. Non mais oui, je comprends Rocky, le mec qui réussit en se battant. Ce qui est bizarrement pas tellement ton histoire, parce que t'es plutôt bien né, t'as du talent et tu l'as depuis longtemps. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas eu ce truc de l'arrache.
Non, mais vraiment, on ne se rend pas compte à quel point le dessin, ou peut-être la musique, ou ces activités-là, c'est presque des trucs d'athlète, c'est-à-dire c'est des choses, beaucoup, beaucoup d'heures par jour,
ça, on est d'accord,
sur une chose. Donc il y a quand même un truc un peu opiniâtre, un peu... Là, par exemple, je suis super bavard parce qu'on m'a sorti de mon trou, mais chez moi, ça peut être 8h, 10h sans parler à personne. Ou tais-toi le chat, tu vois, mais ça fait pas une grande conversation. Et je crois que moi, quand je vois Rocky à l'entraînement, je suis là avec mes petits traits, je vois, ta-da-da-da-da-da, et puis je fais mes traits.
Et par exemple, ce très joli dessin.
Combien, tu veux dire en argent ou
Non, j'ai pas les moyens, Johan. Non, mais par exemple, la couverture de Tu n'as rien à craindre de moi, la nouvelle BD, où on voit ce personnage donc, que tu appelles Mireille Darc, et puis le héros derrière. Pour faire ça.
Alors d'abord il faut faire le crayonné. Enfin moi ma méthode.
Je vais la mettre en image. C'est sur gentil. La page de l'émission.
C'est gentil. Bah d'abord je fais le crayonné, c'est-à-dire sur une grande page je fais une esquisse pour la composition. Parfois je peux m'inspirer de photos que j'ai prises dans la rue pour avoir la rue, pour avoir les arbres, les fenêtres et tout. Une fois que j'ai fait mon crayonné, je le mets sur ce qu'on appelle une table lumineuse, donc il y a une lumière en dessous, et je décalque. Et comme décalquer ça va prendre des heures, avec plume et encre de Chine, je mets de la musique et je vais triper sur la musique. J'imagine que cette couverture c'est une journée complète.
Et la couleur, tu la mets à quel moment ?
C'est pas moi. La couleur, c'est Brigitte Findacli, qui est une formidable coloriste, qui est la femme de mon copain Lewis Trondheim, et qui colorie une grande partie de mes bandes dessinées, en particulier le Chat du Rabbin. Et elle a ce style-là qui est vachement lumineux, vachement simple, et qui rend lisible mon travail. Parce que si tu vois mes dessins en noir et blanc, c'est beaucoup moins lisible.
C'est fascinant. Je suis en train de découvrir ton job, en fait. Voilà. On est arrivé là, c'est la fin de cette première partie d'émission. Je termine par un questionnaire hyper rapide qui va nous amener au top horaire d'une heure. J'ai quelques questions à te poser, Johan Sfar. Il y a des gens qui t'aimeraient dire pardon.
Oui, beaucoup. Beaucoup dans tous ces domaines religieux et communautaires dans lesquels je m'exprime. Parce que quoi que je dise, je m'aperçois que je blesse quelqu'un. Et c'est jamais exprès. À chaque fois que je prends la parole là-dessus, c'est pour essayer qu'on avance, essayer d'éviter les choses. Et tu t'aperçois qu'il y a tellement d'émotions que quoi que tu dises, tu vas te faire traiter de tous les noms, alors que j'essaie juste que ça se passe mieux. Alors je peux être maladroit parfois. Mais c'est pas pardon que je veux dire. C'est trouvant un moyen de parler qui soit moins anxiogène. Mais je l'ai pas la solution.
Il y a des choses que tu peux regretter aujourd'hui dans ce que tu as fait. Je parle pas de ta vie privée, hein, je parle de tes dessins. Bon, à part les trucs sur les touchés rectales, mais ça c'était rigolo. Mais...
Ça, j'en regrette pas, c'est amusant.
Non, mais je veux dire, il y a des prises de position, des dessins, des choses que.
Non.
Non.
Non, parce que moi, il y a beaucoup de points d'interrogation derrière ce que je raconte. C'est-à-dire, quand j'affirme un truc, comme je fais pas des dessins tout seul, je fais des livres. Quand j'affirme un truc, je peux faire avancer ma pensée, je peux dire l'inverse le lendemain, je peux laisser la parole à une personne dans mon carnet qui a dit l'inverse. Donc je suis pas un penseur, je suis quelqu'un d'émotif et je suis quelqu'un qui écoute beaucoup les autres. Alors je peux dire des conneries, mais c'est pas grave parce que la pensée va avancer et le lendemain on peut avancer dans sa pensée.
De quoi t'es le plus fier, Johan Sfar ?
Je sais pas. Si je dis mes enfants, tu vas te foutre de moi, mais
pas
c'est vrai.
Pas du tout, attends. Deux enfants super, des ados.
Ils sont grands, ils ont 15 et 13, ils sont pas débiles, ils sont drôles, ils me vannent toute la journée. Je vais te dire, je suis très fier de ma relation avec la maman de mes enfants, parce qu'on a vécu 30 ans ensemble, on s'est séparés de la manière la plus douce possible, et c'est aujourd'hui ma meilleure amie, et je suis très très fier de cette relation. C'est peut-être pour ça que j'ai pas hâte d'être en couple, parce que je vois pas quoi recréer d'équivalent, donc voilà, j'ai de la chance d'avoir eu ça.
Ça va être compliqué pour la prochaine, non ?
Au contraire, on peut inventer autre chose, j'en sais rien, mais c'est pas ça, je suis comblé aujourd'hui.
Est-ce que t'as des doutes ou des certitudes ?
Moi, je fonctionne que par doute, par angoisse, par détestation de soi, tout ça.
Ah ouais ?
Ah bah, je suis un gros névrosé quand même. Hein. C'est pas... Sinon, je ferais pas des dessins toute la journée. Mais j'ai de grandes joies. Je ris beaucoup, je me marre. Mais c'est pour ça, quand tu dis ce que je regrette, non, je fais un truc, je le relis pas et je fais un autre truc le lendemain. Je suis pas un homme sérieux.
Ta dernière colère ?
C'est tout le temps, malheureusement, mes colères. C'est vraiment tout le temps de voir... Moi, la jeunesse réacte, j'ai du mal. J'ai du mal de voir que des gens beaucoup plus jeunes que nous vont revendiquer du racisme ou vont revendiquer du fanatisme religieux. Ça, je suis mal à l'aise par rapport à ça. Et c'est un nœud coulant, parce que quand on va s'énerver contre, ça va les inciter à le faire encore davantage. J'ai pas les solutions.
On va se quitter momentanément là-dessus, puisque pour la deuxième heure de cette émission, ce sera ta programmation. Je rappelle que ça s'appelle « Tu n'as rien à craindre de moi », c'est la nouvelle BD de Johan Sfar. C'est toi qui vas avoir le dernier mot, je vais couper mon micro, je te demande juste de terminer par RTL, il est une heure. Tu dis ce que tu veux.
RTL, il est une heure.